Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. La BPI est ravie de vous retrouver pour cette deuxième rencontre du cycle « Nous et les autres animaux » en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, Reporter et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Apprendre des animaux pour préparer l'avenir, voilà un beau programme pour découvrir la diversité du vivant, son intelligence et notre capacité à nous en inspirer tout en le respectant. Nicolas Martin va orchestrer cette soirée. Il connaît bien le sujet et les invités car il a animé l'émission « La méthode scientifique » sur France Culture. Et il a aussi écrit un ouvrage, un recueil d'entretiens qui s'appelle « La naissance du savoir » où il a rencontré plusieurs personnalités scientifiques dont Sabrina qui est à mes côtés. Sabrina est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, elle est primatologue et elle a accepté d'être la conseillère scientifique de ce cycle de rencontres. Elle aurait toute sa place à la table des invités par les travaux qu'elle mène avec les chimpanzés. Je vais lui laisser la parole, mais avant, je voulais vous dire deux, trois choses importantes pour l'organisation de cette soirée. D'abord, cette soirée est enregistrée, filmée et diffusée en direct. Donc, ceux qui nous regardent sur leur écran pourront poser leurs questions dans la zone des commentaires. Ensuite, ne partez pas à la fin exact de cette rencontre. À la librairie, il y a une vente signature qui est organisée où vous pouvez rencontrer les personnes qui sont sur le plateau, y compris Sabrina et Nicolas Martin. Je vous laisse avec Sabrina. Bonne soirée à tous.
Merci beaucoup Geneviève, merci de cette superbe introduction. Donc effectivement, cette deuxième séance du cycle « Nous et les autres animaux » a pour but de nous plonger dans les intelligences animales et de voir de quelle façon elles peuvent nous inspirer. Mais qu'entend-on par « intelligence animale » au pluriel ? Longtemps, et aujourd'hui encore parfois, par certains, le seul référentiel était l'intelligence humaine. Celle qui nous permet de faire des maths ou de la philo, de construire des fusées, de plonger sous les mers. Et en tant que vétérinaire, avant, pendant et après mes études, je me suis souvent entendu dire « la médecine vétérinaire, c'est plus dur que la médecine humaine. Les animaux ne parlent pas ». Un peu comme si la difficulté du travail venait d'une incompétence de ceux pour lesquels on se dévoue. C'est vrai, ils ne peuvent exprimer à l'aide d'un langage articulé leurs symptômes. Mais au final, ce n'est qu'ajouter une petite pièce de plus au puzzle qu'est la compréhension de la santé des animaux, car pour moi, la difficulté vient plutôt du fait que ceux-ci appartiennent à des centaines de milliers ou millions d'espèces que nous devrions prétendre, en quelques années, 5 ans d'études vétérinaires, être capables de soigner. Je rappelle que les médecins qui soignent les humains ont 10 ans pour soigner une seule espèce, un seul spécimen parmi toutes ces milliers d'espèces. Donc, à moins de ne considérer que ceux qui ont été façonnés par nous et pour nous, les animaux domestiques, on peut s'interroger sur le bien fondé de cette difficulté. D'autant plus que, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, puisque les zoonoses, les maladies qui sont transmises entre les humains et les animaux et qui donc mettent en jeu la santé animale et notamment les animaux sauvages, est aujourd'hui une priorité. J'ai donc soigneusement suivi les cours de l'école vétérinaire, ceux notamment du professeur Dominique Grandjean qui était là à la séance précédente. Mais ensuite, je me suis dit qu'à part ces quelques animaux domestiques, les quelques milliers ou centaines de milliers d'autres semblaient très bien capables, tout à fait capables de se débrouiller sans nous. Seraient-ils capables de se soigner ? Au Congo, où j'ai fait ma thèse vétérinaire, j'ai eu l'intuition que les chimpanzés ne consommaient pas que des plantes qui nourrissent. Les villageois congolais me l'ont confirmé. Les médecins traditionnels au village utilisaient les mêmes écorces, les mêmes feuilles que les chimpanzés que je suivais. J'ai donc passé quelques 10 années supplémentaires pour confirmer cette hypothèse auprès des chimpanzés sauvages. D'abord, la priorité était d'apprendre comment vivre et se nourrir ceux qui semblaient en bonne santé, pour avoir un référentiel. Ensuite, j'ai appris à décrypter leurs comportements, leurs attitudes, ce qui semblait dénoter d'un état pathologique. Celui-ci se reposait beaucoup, buvait beaucoup, pouvait-il avoir de la fièvre ? Celle-ci se levait un peu plus tard, sortait de son nid avec 1 ou 2 heures de retard, avait-elle un rhume ? En même temps, j'avais déjà listé 300 aliments, lesquels étaient vraiment nutritifs, consommés par tous régulièrement, lesquels demandaient beaucoup d'efforts pour peu de calories, quelle consommation suscitait beaucoup de curiosité chez les autres membres du groupe au point de goûter carrément dans la bouche du consommateur pour essayer d'extirper une petite bouchée de la chic. À mon tour, j'ai goûté ces plantes, noté lesquelles étaient amères, astringentes, donnaient la nausée, piquaient. Et en rassemblant tous ces indices, j'ai pu collecter, étudier chimiquement plusieurs plantes, trouver des nouvelles molécules actives contre le paludisme, les cellules cancéreuses ou encore les parasites digestifs. Dans cette immense forêt, aux centaines de milliers d'espèces de plantes, dont seuls 5% ont été étudiées pour leurs propriétés biologiques et chimiques. Et donc je confirme, les chimpanzés, si on prend le temps de les observer, de les étudier, même sans la parole, peuvent nous apprendre beaucoup sur les ressources médicinales des plantes des forêts tropicales. Mais, me rétorquera-t-on, les chimpanzés nous ressemblent. C'est vrai, ce sont nos plus proches parents. On a montré qu'ils utilisent des outils, qu'ils ont des cultures, des dialectes. Oui, comme les oiseaux, les baleines, les poulpes, et comme aussi ceux donc, qui sont beaucoup plus éloignés de nous. Et ce soir, c'est vraiment ainsi que nous l'avons souhaité avec Geneviève, avoir des intervenants qui seront guidés par l'exceptionnel Nicolas Martin, qui vont nous emmener dans des univers très lointains des nôtres. Des univers parfois relativement silencieux ou au contraire très sonores, mais qui témoignent de la diversité du vivant, des incroyables recherches qu'elles inspirent et pour lesquelles nos invités ce soir vont témoigner. Et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à découvrir leurs travaux. Merci beaucoup.
Merci, Sabrina.
Eh bien, merci beaucoup Sabrina, merci Geneviève, merci de m'avoir proposé d'être ici pour animer cette table ronde qui fait partie des sujets qui me passionnaient, qui m'ont passionné quand je les ai bien expliqués, quand j'ai fait venir un certain nombre de chercheuses et de chercheurs autour de ces questions de sentience animale, d'intelligence animale, de biomimétisme. Et donc, je suis vraiment ravi d'être ici avec mes trois invités pour explorer un peu, et vous allez voir des pistes radicalement différente, mais absolument passionnante. J'ai donc tout de suite à ma gauche Christine Rollard. Bonsoir Christine. Vous êtes enseignante-chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle. Franck Zal, qui est tout au bout. Bonsoir Franck. Vous êtes docteur en biologie marine. Vous avez travaillé sur un ver marin dont on va longuement parler tout à l'heure. Et Jérôme Sueur. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Vous êtes professeur et directeur de laboratoire d'éco-acoustique également au Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous allons donc parler. Alors, c'est pour ça que j'aimerais commencer, avant de rentrer dans les travaux de chacun de mes invités, d'une notion qu'on pourrait qualifier, ou qui a été qualifiée à défaut d'autre chose, de biomimétisme ou de bio-inspiration. C'est un terme qui définit toute forme de procédé humain qui cherche à imiter un procédé naturel. Et on va encore une fois préciser les contours exactement de tout ce que cela recouvre. En l'occurrence, nous allons nous pencher plus précisément sur le biomimétisme biologique, hein, parce que par exemple l'avion de Clément Ader est du biomimétisme technologique, en essayant de reproduire des ailes de chauve-souris avec un avion. Ici, on va parler de biomimétisme biologique, ou comment l'observation de phénomènes naturels, qu'ils soient comportementaux, comme vous venez de l'entendre dans les travaux de Sabrina sur les chimpanzés, ou exogènes, avec l'étoile d'araignée, mais on verra qu'il n'y a pas que l'étoile qui peuvent nous intéresser dans les araignées, ou biologiques endogènes, comme pour l'hémoglobine que Franck a étudié sur ce fameux ver marin qui a des propriétés, vous allez l'entendre, en termes de médecine tout à fait spectaculaire. Mais pour commencer, donc, avant de parler de tout ça précisément, j'aimerais entendre votre propre accession du terme biomimétisme, acception, pardon, du terme biomimétisme, ou est-ce qu'il y a d'autres terminologies qui vous semblent plus judicieuses ou plus appropriées ? Christine.
Bonsoir à tous. En ce qui concerne plutôt mon matériel d'étude, hein, que sont les araignées, je parlais plutôt de bio-inspiration, hein, donc comme ça a été évoqué, plutôt qu'au biomimétisme à proprement parler, puisque effectivement en observant, et comme ça a été dit, il y a pas que l'étoile, il peut y avoir autre chose en fait sur les araignées, en observant ça, en analysant effectivement un certain nombre d'éléments comme le venin pour les araignées, puisque ce sont des animaux venimeux, on peut aussi aller vers le biomédical. Donc je parlerai plutôt moi de bio-inspiration en observant, en analysant les éléments biologiques qui nous entourent.
Jérôme, non, on va faire dans l'ordre.
Alors, moi aussi, je suis plus pour la bio-inspiration parce qu'il n'y a pas beaucoup de biomimétisme dans ce que je fais, parce que j'étudie le comportement et l'écologie via le son. Mais j'ai beaucoup de contacts avec des musiciens qui s'inspirent des sons de la nature, des sons des animaux, des paysages sonores. Et voilà, c'est dans une acception encore plus large qui permet de connecter science et art.
Franck.
Ben, moi, je dirais que dans les travaux qui nous concernent, c'est un peu les deux, en fait. Biomimétisme, bio-inspiration, bien sûr, mais biomimétisme, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais quand moi, je vois une arénicole sur la plage, entre la marée haute et la marée basse, ça me fait penser à un bloc opératoire. Parce que un organe qui est déconnecté de la circulation, c'est comme mon arénicole qui est déconnectée de la marée haute. Donc, je dirais les deux.
Alors, on va pas se perdre dans des arguties sur la terminologie à proprement parler. Moi, j'ai envie, alors là aussi, avant d'arriver, on va évidemment parler de vos spécialités, mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, dans votre parcours de recherche, à aller chercher, à vous approcher de ces domaines naturels, de cet espace, finalement, scientifique qu'on pourrait qualifier de bio-inspiration, Christine ?
Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le monde des araignées, donc on est encore en train de décrire quand même la diversité qui nous entoure, la biodiversité. Mais au fur et à mesure que je rentrais, depuis maintenant une quarantaine d'années que je suis tombée dans le monde des araignées, vers ces animaux qui souvent méconnus, mal aimés et peu étudiés, au fur et à mesure, il y avait un certain nombre de capacités qui m'ont poussée à être en contact avec d'autres chercheurs. Je suis biologiste, je ne suis pas physicienne, je ne suis pas chimiste. Donc c'est aussi ça qui est intéressant en recherche, c'est de pouvoir faire des collaborations avec des domaines qui ne correspondent pas aux nôtres. Et j'ai eu des contacts, du coup, par exemple, avec des physiciens pour étudier la soie, hein, et puis un peu avec des chimistes pour étudier le venin, par exemple. Et certains m'ont contacté aussi pour parler des formes d'étoiles, par exemple, qui peuvent être reprises en architecture, qui peuvent être reprises dans d'autres systèmes. Donc, il y a tout un coup un univers qui s'est ouvert, non seulement pour la découverte et la détermination, hein, donc des nouvelles espèces qu'on ne connaît pas encore, mais d'aller plus loin vers de la science non seulement fondamentale, mais un peu plus appliquée.
Jérôme, à quel moment vous êtes intéressé justement à ce pan de la bioacoustique, à la captation de son, et comment est-ce que vous avez utilisé en fait une partie de ces travaux pour bien nourrir d'autres disciplines scientifiques?
Moi, c'est, alors je reprends un petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est via la musique essentiellement, où j'ai essayé d'être musicien mais je ne le suis pas, mais j'avais un grand affect pour le son, pour la musique et aussi pour le comportement animal, donc c'était pas animal, c'est pas de la bio-inspiration mais de la bio-admiration, j'allais dire, vraiment pour le comportement animal, et donc les deux se sont combinés, et donc j'ai pu étudier sous différentes manières le comportement animal sonore, et maintenant en changeant d'échelle les paysages sonores dans leur totalité, donc l'ensemble de son que l'on peut percevoir à un temps donné, avec toujours cette idée qu'on peut faire des ponts justement avec de l'inspiration musicale.
Et Franck, enfin ?
Ben, en fait, c'est un peu le hasard. En fait, moi, j'ai été pendant 15 ans chercheur au CNRS. Je m'intéressais à l'écophysiologie marine, notamment les vers. Les vers intéressaient personne, alors qu'il y a 10 000 espèces de vers. Et je me suis mis à travailler sur un ver qui a 450 millions d'années. Je me suis posé une question que tous les gamins se posaient. Comment le ver est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse? Je peux vous dire que ça n'intéressait personne. Et on avait du mal à se faire financer. Et puis avec ça, en fait, juste une question de chercheur. C'est pour ça que je dis que la recherche fondamentale, c'est hyper, 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 hyper important. Ben, on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine. Là, je reviens de New York. J'étais au NIU, en fait, où je discutais avec ceux qui ont fait de la xénotransplantation. J'étais à Montréal il y a quelques semaines avec ceux qui font du biobanking, en fait, en cancer. En fait, on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine.
Alors, NYU, c'est l'Université de New York.
Oui.
Vous aviez dit quoi vous avez utilisé des termes...
La xénotransplantation.
C'est la possibilité de transplanter un organe animal sur un être humain.
C'est ça.
Et le biobanking, c'est le fait
biobanking,
d'avoir des banques de données d'organes.
C'est ça. Ou de tumeurs pour en fait avoir le bon traitement adéquat. Okay.
Mais il y a quelque chose en particulier qui vous a mis une anecdote sur ce verre à Rod Nicol qui vous a attiré vers ce verre, ou c'est vraiment un coup
de bol? Pas du tout. En fait, moi j'étais à Roscoff, pour ceux qui connaissent.
Très belle ville.
Voilà, très belle ville. Il y a un grand centre de recherche. Et puis en fait, les fenêtres de mon laboratoire donnaient sur la baie de Roscoff. C'était bourré de traces en fait d'Harry Nicol, et c'était vraiment en fait un modèle d'étude qui était hyper intéressant pour moi, disponible. Et donc en posant cette question, je me suis intéressé bien sûr au sang de l'animal et j'ai fait cette découverte. Mais au démarrage, c'était vraiment le hasard.
Vous allez nous reparler de cette découverte qui est effectivement spectaculaire. Peut-être qu'on pourrait commencer avec vous, Jérôme, puisque vous nous avez fait l'amitié d'amener un certain nombre d'extraits sonores. Peut-être commencer par un extrait sonore de chimpanzé, puisque pour faire le lien avec ce que
disait Sabrina, parce qu'elle ne les entend pas assez, qu'on va lire. Donc en Ouganda, la station de Sibitoli, qui est dirigée par Sabrina. Sabrina, c'est qui? Tu les reconnais?
Non, c'est le futur travail qu'on va faire ensemble.
Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous pouvez nous décrire ce qu'on entend et qu'est-ce que ça nous raconte par ailleurs, et quel est le discours scientifique que l'on peut construire ou trouver ou découvrir avec ces enregistrements?
Alors là, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble avec Sabrina, c'était pas pour des questions purement de comportement animal, de savoir ce que se disent les chimpanzés à ce moment, mais d'essayer de, entre guillemets, de surveiller la forêt dans laquelle ils habitent, dans laquelle ils évoluent, et de voir, d'essayer de détecter leur présence ou leur absence, qui est évidemment beaucoup plus dur à prouver, en fonction de leur position dans la forêt, et notamment à la lisière, aux lisières de cette forêt, lorsqu'ils sortent de la forêt et qu'ils vont piller les champs en dehors, et de savoir s'ils deviennent silencieux. Je me suis intéressé au silence, et donc là, avec Sabrina, c'était une occasion de tester cela, de savoir si, quand ils sortent et qu'ils vont piller, et bien, ils deviennent silencieux pour ne pas être détectés, parce que ce sont des formes de prédation où il vaut mieux pas se faire remarquer.
Est-ce que vous voulez vous nous faire écouter un autre extrait différent, dans un autre...
Oui. Qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter? Alors, je vais vous faire écouter un extrait un peu personnel que je raconte dans mon bouquin. Vous allez voir que le son n'est pas très bien parce que vous allez m'entendre bouger. Et c'est un peu parce que ça révèle la position qu'on peut avoir dans un environnement naturel. Là, c'est en forêt tropicale en Guyane, où en fait, j'entends mais je ne vois pas ce qui m'arrive. Vous allez entendre des sons un peu forts et je ne sais pas quoi faire. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous remet justement dans une situation d'humilité, dans des environnements qu'on ne connaît pas, où on sait dans lequel on ne sait pas trop se déplacer et on ne sait pas toujours quoi faire. Là, je ne sais pas trop où me mettre, je sens qu'il se passe quelque chose. Alors en fait, rien de dangereux, hein. Ce sont des daguets rouges, c'est comme des chevreuils qu'on aurait en forêt de Rambouillet, mais je ne savais vraiment pas où me mettre. Et pour moi, c'était un moment important justement qui permet de se resituer dans cet environnement.
Et un troisième petit extrait pour voir un peu la palette de vos travaux et de ce qu'ils nous apprennent sur les espèces que vous enregistrez.
Peut-être. Alors attendez, je trouve. Alors soit on s'en va encore loin, soit quelque chose de plus classique. Attendez, on va voir ce que c'est. Ah oui, non, pardon, ça c'est de la pollution sonore. c'est que du bruit. Alors attendez, bon, non, je vais vous emmener loin encore. Là, on est en Corée, à la frontière entre les deux Corées. On avait un projet en Corée du Sud pour enregistrer sur la frontière, en fait, où il y a une zone dite démilitarisée, qui est en fait hyper militarisée. Et l'enregistrement permet de témoigner d'environnement sonore, d'une forme d'écologie, sans être là. Donc avec des enregistreurs qui ont été placés et qui, là, enregistrent la nuit. Vous allez voir que c'est un enregistrement qui n'est pas extraordinaire, mais on entend un hibou petit duc, et vous êtes dans un endroit où personne n'est, finalement. Nous n'étions pas en pleine nuit entre les deux Corées. Ça dure comme ça, toute la nuit.
Mais c'est très plaisant, on pourrait baisser un peu les lumières, faire une petite sieste sonore. Une question peut-être un petit peu plus générique sur les enseignements que vous pouvez tirer de ces différents enregistrements. Qu'est-ce que ces sons nous disent des différentes formes d'intelligence ou d'organisation animale, et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux véritablement?
Bon, les sons utilisés par les animaux sont un moyen de communication, d'échanger de l'information comme on le fait. Alors, à un niveau un peu moins compliqué, mais on peut considérer que c'est une forme de langage, parce qu'on dit qu'ils codent des informations sur leur identité, tout simplement. Les chimpanzés probablement disent qui ils sont, ce qu'ils sont en train de faire, où ils sont. Là, probablement, ils étaient en train de de ce que j'ai pu voir, ils étaient en train de se disputer, d'être en compétition. La structure de ces signaux, à la fois en temps, en amplitude, en fréquence, code donc plein d'informations. Je suis, je ne sais plus comment s'appellent tes chimpanzés, je suis désolé. Je suis Elliot, je suis un mâle alpha. Ouais, alpha, j'ai des femelles peut-être, j'ai mon territoire est ici, je suis actif à tel moment de la journée, je suis beau aussi, je suis dominant. Donc on peut transmettre beaucoup de choses entre partenaires sexuels, entre parents et enfants, entre membres d'un même groupe. Donc tous ces sons ne sont pas produits par hasard, ils sont le fruit d'une évolution, d'une sélection sexuelle, d'une sélection naturelle, ils ont un coût énergétique, on prend des risques quand on se manifeste acoustiquement, parce qu'on peut être en compétition avec d'autres, on peut être détecté par des prédateurs. Donc c'est pas, on dit souvent, le chant du rossignol, c'est pour nous faire plaisir. Non, c'est vraiment un comportement sélectionné et coûteux.
On reviendra sur cette notion de communication, d'intelligence. Vous allez voir que les deux exemples qui vont suivre sont très, très distincts. Peut-être on peut continuer avec vous, Christine Rollard, et vos travaux sur les soies d'araignée. On va parler des soies d'araignée parce que là, on est dans la bio-inspiration. Mais plus généralement, qu'est-ce que 40 ans d'études des araignées vous ont appris sur l'écosystème terrestre, sur l'espèce humaine, dans votre discipline, au-delà de votre discipline en quelque sorte?
Énormément de choses, puisque je pense qu'on ne sait pas forcément toujours regarder les autres animaux à une échelle différente aussi. Donc moi, j'ai la chance de travailler sur un groupe qui effectivement ne correspond pas à des animaux qui sont proches de nous, qui sont souvent effectivement aussi mal aimés. Mais quand on se remet à leur échelle, alors la majorité des araignées c'est petit, hein, on découvre là un univers complètement différent. Donc depuis 40 ans que je suis tombée dedans par hasard, j'ai appris à connaître vraiment leurs mœurs, leur diversité, les comportements de chasse, les comportements de cours. Bon, là, il n'y a pas d'enregistrement de cours de certaines araignées, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de...
Roméo et Juliette araignées, ça existe pas.
Si, ça existe, mais j'ai oublié de mettre l'enregistrement.
Donc c'est cette diversité qui m'a vraiment fascinée, hein, sachant que de toute façon il y a encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir. Et j'ai suivi les fils, hein, donc il se trouve qu'effectivement les araignées c'est un monde qui est très soyeux. Elles produisent justement ces fils de soie de différents types. C'est les seuls animaux qui produisent différents types de fils pour différents usages. Donc c'est hyper intéressant de connaître la composition et de savoir quels sont les usages qu'elles peuvent en faire. Et puis également, elles sont recouvertes de sortes de poils qu'on va appeler des soies aussi, puisque c'est une insertion sur leur carapace, sur leur tégument, qui est différente de nos poils à nous de mammifères. Donc c'est un monde soyeux qui s'est ouvert à moi, un monde très sensoriel, un monde sensitif, et qui, je pense, est vraiment très important dans l'équilibre général. Hein, et donc c'est pour ça que justement c'est vraiment important d'aller plus loin dans cette connaissance. Et il se trouve, comme je mentionnais tout à l'heure, que ce sont des animaux qui sont aussi venimeux, puisque ce sont des prédateurs, qu'elles se servent de leur venin pour en priorité se nourrir, et que là aussi il peut y avoir des applications intéressantes au niveau médical et autres. Hein. Donc du coup c'est vraiment ça qui s'est ouvert à moi, et j'ai continué à suivre les fils de soyeux des araignées.
Oui, ce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, c'est que la soie, alors je vais parler, vous allez évidemment préciser la chose grossière et générique que je vais dire, qui va vous révulser la scientifique qui est en vous, mais la soie d'araignée est connue pour ses propriétés d'ultra-résistance. Et beaucoup, enfin, ça fait de nombreuses années que des industriels, des scientifiques essayent de retrouver ce type et de créer ce type de matériaux de synthèse qui soit à la fois élastique et en même temps qui soit capable de porter une charge gigantesque par rapport à sa structure et par rapport à ce qu'on considère nous comme étant une certaine finesse. Je vous laisse corriger ça avec des mots beaucoup plus précis et beaucoup plus intéressants que les généralités que je viens de dire.
C'est pas mal hein, quand même, Nicolas, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte depuis très longtemps que la soie d'araignée pouvait être d'une très grande résistance et d'une certaine élasticité. Alors, les physiciens parlent plutôt de ténacité hein, plutôt que de résistance, puisque c'est vraiment étirer les fils avec une force énorme pour arriver à un point de rupture. Et donc ça, c'est vraiment la ténacité qui est vraiment très importante. Donc c'est vrai qu'on avait l'habitude on a l'habitude d'avoir éventuellement des vêtements en soie hein, qui sont produits par, par exemple, les vers à soie. Hein, donc on a ici des cocons hein, de vers à soie. Ça fait très longtemps qu'on élève les vers à soie, qu'on récupère les cocons, qu'on file cette soie et qui nous permet justement d'avoir des vêtements en soie. Hein. C'est très pratique. On a juste à mettre les vers à soie dans des bacs et on leur donne des feuilles de mûrier en général. Et donc, c'est pas trop contraignant. On a essayé de faire ça avec les fils de soie d'araignée, puisqu'on s'est rendu compte que c'était d'une des qualités qui était peut-être beaucoup plus importante. Donc on a essayé de faire ça, en particulier les premiers élevages d'araneiculture, donc culture d'araignée, ont eu lieu à Madagascar en 1896. Hein. Donc à Tananarive, et ils ont prélevé pour ce faire, alors c'était un père jésuite, le père Camboué, qui a lancé cette école d'araneiculture, et il s'était rendu compte qu'il y avait énormément de grandes araignées autour d'eux, qui sont qu'on appelle des néphiles. Donc je vous ai apporté ici un exemplaire. Donc pour la suite, vous pourrez venir voir hein, sur la table, bien évidemment, parce que c'est pas forcément évident à voir. Ce sont des araignées qui font quand même autour de 4 cm de taille de corps et qui font des énormes toiles géométriques en soie un peu jaunâtre. Donc élevage de prélèvement de ces araignées, élevage, et on tire les fils et il entourait ça autour d'un rouet à l'époque pour faire des pièces de tissu. Il y a eu un baldaquin de lit qui a été fait, il y a eu des tissus de chaises à porteurs à l'époque, des gants, des écharpes, etc. Mais les élevages de ces araignées étaient beaucoup plus compliqués que les élevages de vers à soie. Et effectivement, les araignées sont cannibales, elles peuvent se manger entre elles déjà. Elles s'auto-régulent, hein, donc c'est très bien. Mais il faut aussi des proies en parallèle dont elles puissent se nourrir, proies qui devaient être vivantes. Donc les élevages ont été très contraignants et en fait la rentabilité avec ces araignées n'était pas suffisante par rapport à celle du vers à soie. Et quand on regarde effectivement donc des fils de ces néphiles, hein, donc c'est vraiment des fils jaunâtres qui sont très fins mais très 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 résistants. Donc on a fait des essais puis ça s'est arrêté. Et maintenant, effectivement, il y a un certain nombre d'équipes de recherche, pas en France, mais plutôt en Allemagne, en Angleterre, qui travaillent sur la production de fils de soie par d'autres organismes. Et en particulier, les dernières expériences qui ont été faites, c'est plutôt sur des bactéries. Donc pour arriver à produire des filaments qui auraient les mêmes propriétés que celles des araignées directement.
Mais c'est cette soie d'araignée, alors déjà j'imagine qu'il y a autant de soie d'araignée qu'il y a d'espèces.
Alors, pas en fait, tout à fait,
non, pas c'est
tout
à peu fait. Près la même chose.
Pour toutes les araignées, on a de 3 types de glandes à l'intérieur du corps, jusqu'à 6 types de glandes différentes qui vont produire des fils qui ont une protéine de base qui est la même, la fibroïne, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez le ver à soie, mais avec ensuite des éléments minéraux, des éléments colorants, de l'eau, des proportions en fait de différents éléments qui sont différentes selon les glandes. Et les araignées sont les seuls animaux capables d'utiliser différents types de fils pour des usages différents. Le fil de rappel ne va pas être le même que le fil qui va emmailloter les proies, par exemple. Ou les fils qui vont entourer les œufs quand les femelles vont pondre leurs œufs, qui sont toujours entourés de fils de soie. Ou les points d'accroche, quand vous voyez une araignée qui fait un petit point d'accroche et ensuite elle a son fil de rappel, le point d'accroche ou le fil de rappel ne sont pas issus des mêmes glandes. Donc c'est vraiment des usines à soie. Hein, et selon les espèces, et selon qu'elles font des toiles pièges pour capturer leurs proies ou pas, c'est de 3 types de glandes à 6 types de glandes différentes. Mais ça sera les mêmes qu'on va retrouver chez les espèces d'araignées.
Et un dernier mot peut-être avant de passer au ver araignicole. Cette soie aujourd'hui, les industriels cherchent à la reproduire, pas uniquement pour des vêtements, parce qu'elle a des propriétés physiques qui peuvent être utilisées dans quel type d'application ?
Donc il n'y a pas que du textile, effectivement. Il y a aussi du médical. Puisque certains peuples dans le monde utilisent ou ont utilisé des toiles d'araignée, par exemple, comme pansement. Hein, donc en récupérant des toiles et des fils, donc en s'appliquant ça sur des plaies, c'est quelque chose qui permet justement d'arrêter les saignements. Et donc c'était style un peu antibiotique, on va dire. Et puis il y a aussi ces propriétés de fils de suture. Hein, donc qui peuvent être utilisés justement aussi au niveau médical comme fil de suture vu leur résistance, et ça s'autodétruit, donc il y a des propriétés intéressantes, et puis également des fibres optiques, hein, donc du coup il y a aussi des applications envisagées pour les fibres optiques. Donc vous voyez qu'il y a quand même des applications énormes, hein, donc qui sont en train d'être testées plutôt que traitées à l'heure actuelle.
On a, est-ce que vous avez quand même, Jérôme, des sons d'araignée ?
Non. Ça existe ? Et non. J'ai pensé en arrivant, en voyant ouais. Christine.
Et ben voilà.
Parce que, mais sinon, je ne pense pas aux araignées.
Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme type de son d'araignée ?
Peu, hein, peu, on en parlait oui. un petit peu. Oui. Il y a peu de communication sonore, mais il y a des araignées loups.
Oui.
Qui font des
c'est
sons.
Celles qui courent au sol.
Voilà, hein. Qui courent au sol et qui, sur la litière sèche, vont faire vibrer leur abdomen. Et on peut les entendre. Moi, je ne les ai pas encore entendus. Je projette de les enregistrer cette année avec Marc Namblard, un audio naturaliste. Mais c'est assez rare. Sinon, elles communiquent quand même beaucoup par vibration
oui,
à travers leurs toiles, celles
voilà,
qui ont des toiles.
Celles qui ont des toiles, voilà. Des vibrations, voilà. Des tiraillements.
Rencontre des partenaires sexuels, détection
exactement.
De la proie.
Oui, tout
donc,
à fait.
Elles vivent quand même dans un monde sensoriel, mécanique
oui.
aussi.
Oui, parce que les soies sont mécanoréceptrices et chimioréceptrices sur le corps. Donc effectivement, au niveau mécanique, elles ressentent toutes les vibrations. Et en plus, certaines sont équipées d'organes stridulatoires. Donc
ouais.
on en parlait
ouais.
avec Jérôme tout à l'heure. Et donc d'organes de stridulation. Alors, ce n'est pas forcément audible à l'oreille humaine, bien évidemment. Mais il y a un certain nombre d'espèces
vous
qui
allez
ont justement
sur Internet,
ça.
Vous mettez... Alors, c'est peut-être Jumping Spiders en anglais.
Oui,
vous verrez des danses... d'araignées incroyables, elles sont colorées, elles lèvent les pattes, enfin, c'est de la percussion. Déjà, c'est extraordinaire. Allez voir ça, c'est vraiment des superbes parades sexuelles d'araignées.
Voilà.
Franck, donc on va revenir à votre araignicola marina. Donc, vous nous avez expliqué comment vous l'avez pris comme sujet d'étude. À quel moment, pourquoi, qu'est-ce que vous avez cherché en fait sur ce ver et à quel moment vous avez fait cette découverte des propriétés surprenantes de son hémoglobine comme vous allez nous le raconter.
Alors, je ne sais pas si on peut voir... Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été intéressé par la biologie marine et surtout par les environnements extrêmes, Parce qu'en fait, quand on veut faire des découvertes, c'est mieux de regarder des organismes qui vivent dans des milieux extrêmes pour avoir plus de facilité à observer des adaptations, etc. Et j'ai eu la chance, en fait, moi, d'aller plonger dans les abysses, donc avec le Nautil, l'Alvin, en fait, à 4500 mètres de fond, au niveau des sources hydrothermales profondes, et pour travailler sur des vers géants qui font 3 à 4 mètres de haut. Et puis, je me suis intéressé, donc, ils vivaient dans un environnement complètement toxique, donc, notamment d'hydrogène sulfuré, donc, j'ai décrit pas mal de choses. Et puis, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le vivant. Et donc, quand j'étais au large des Galapagos, quand je remballais mon laboratoire, en fait, sur un bateau, j'étais obligé de congeler mes animaux. Et je revenais à Roscoff faire de la biochimie et ça m'intéressait pas trop. Et donc il fallait en fait trouver un organisme de référence. Et l'organisme de référence, ça a été l'arénicole. Donc parce qu'il y en a énormément. Et ça a été en fait vraiment une question basique en fait au démarrage. Comment ça respire? Et j'ai bien aimé en fait, Christine, en fait, ce que vous avez dit en fait sur la transversalité. Quand j'ai découvert cette molécule, alors je sais pas si on peut passer les slides. Je sais pas comment ça fonctionne. Enfin, on fait en terre. Donc, en fait, quand j'ai découvert en fait cette molécule chez ce ver marin, c'était une molécule d'hémoglobine extracellulaire. Et là, alors, on me croyait pas. J'avais pas pu trouver une hémoglobine extracellulaire.
Alors, précisez-nous pourquoi c'est incroyable une hémoglobine extracellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hémoglobine?
Parce que ici, dans cette salle, on a tous du sang. Vous avez tous une protéine qui lie l'oxygène, qui est une hémoglobine. Et chez nous, en fait, elle est inclue dans des globules rouges. Ces globules rouges, en fait, vont enfermer ces hémoglobines. Et donc, c'était pas possible d'avoir trouvé une hémoglobine qui est hors des globules rouges. Et là, je me fais convoquer, en fait, par un groupe savant qui s'appelle le Club du Globule Rouge. Et donc, on me dit, c'est pas possible, nous, on est le Club du Globule Rouge, donc tout est dans un globule rouge. Et donc, je me retrouve, en fait, dans un amphi un samedi matin. Et donc, je parle de ce que j'avais trouvé, tout le monde rigolait au démarrage. Et puis, à la fin, ils viennent me voir, ils me disent, c'est pas possible, vous avez pas trouvé ça. Nous, on cherche ça depuis plus de 40 ans pour faire un substitut sanguin universel. Et moi, naïvement, je dis, en plus, il y en a plein sur les plages de Bretagne. Et en fait, c'est comme ça que c'est né, en fait. Et je trouve que la recherche, elle devrait se nourrir de la transversalité. Et en fait, donc, on peut être super chercheur dans son laboratoire, faire des publications dans Nature, dans Science, et j'en passe, mais pas vraiment innover, en fait. Et je trouve que l'innovation, c'est vraiment, en fait, à la croisée, en fait, des sciences. Et donc, j'ai trouvé cette molécule, Et donc, avec cette molécule, aujourd'hui, on fait un tas de choses. Et donc, notamment, c'est un analogue au culoglobulaire. Le culoglobulaire, c'est une poche de sang qui fait 450 millilitres. Dessus, il y a un typage sanguin, A, B, O, rhésus positif ou négatif. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y a 300 groupes sanguins différents. Et donc, moi, j'ai trouvé une molécule qui n'a pas de groupe sanguin et qui est utilisée aujourd'hui. Alors, c'est plus un rêve. C'est utilisé aujourd'hui dans les hôpitaux pour la transplantation. Donc vous avez ici un monsieur, différents types de transplantation, les organes solides, ça peut être des reins, des cœurs, etc. Mais on a fait des greffes de bras, des greffes de face, et puis en fait on a différentes applications sur l'utilisation de cette molécule dans des plaies. Et donc vous parliez de pansements, et donc aujourd'hui on a un pansement qui s'appelle M-Healing. Il a fait beaucoup parler de lui il y a un an parce qu'on a traité une personne qui était brûlée à plus de 85%. Et cette personne est sortie de l'hôpital au bout de 3 mois contre toute attente. Et donc, en fait, ce produit-là est en train de diffuser dans le monde entier. Et donc, au démarrage, c'était ça. C'était juste la curiosité d'un chercheur. Et puis l'intérêt d'aller voir d'autres spécialités.
Non, c'est intéressant parce que je vais vous donner la parole là, tout de suite, Christine, mais c'est vraiment dans la biomimétique, l'une des définitions, elles sont nombreuses, que j'ai trouvées, que je ne vous ai pas lues parce qu'on avait suivi en parler, c'est la biomimétique est un processus créatif interdisciplinaire entre la biologie et la technique, dont le but est de résoudre des problèmes anthropocentriques par l'abstraction, le transfert et l'application de connaissances issues des modèles biologiques. Mais Christine, vous voulez réagir?
Non, pas du tout.
Moi, je peux réagir sur l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, la multidisciplinarité. On nous a un peu bassiné avec ça.
C'était juste conforté.
Mais
ça.
On nous a un peu forcé. Il faut dire que c'est vraiment une bonne chose. C'est vrai que on a tout intérêt à aller voir ailleurs, à aller écouter ailleurs. C'est vrai que dans ce que je fais, moi, c'est par essence, c'est interdisciplinaire parce que c'est de la physique, c'est de l'écologie, c'est du comportement animal. Maintenant. On va plus loin en connectant avec les arts. Pour la musique, je ne sais pas si toi, tu as d'autres applications,
oui,
transfert vers la littérature. Et c'est vraiment c'est que du bonheur finalement pour nous.
C'est l'art et les sciences en fait. Et j'ai été régulièrement contactée aussi par des artistes, bien évidemment, qui sont inspirés par soit les fils, hein, donc pour récupérer quelque chose qui leur permette de faire des tissages déjà, et puis la structure des toiles, hein, donc la forme des toiles qui peut être très variée, parce qu'on a souvent l'image d'une toile géométriques régulières pour les araignées. Elles font des toiles en nappe, elles font des toiles en tube, elles font des toiles en réseau, elles font des toiles en chapiteau. Et donc il y a par exemple le stade olympique de Munich qui a une forme particulière et qui correspond à une inspiration par rapport à des toiles particulières d'araignées. Thomas Saraceno a fait
qui fait
aussi,
du son aussi avec à travers.
Il fait à la fois justement la récupération des toiles et voilà ces choses assez poétiques autour des toiles et les vibrations qu'il peut y avoir. Donc l'art et la science c'est vraiment très important aussi.
Mais pour revenir justement au passage du milieu naturel à l'industrie, c'est intéressant aussi cette aventure. Enfin, à partir du moment où vous avez identifié cette hémoglobine, j'imagine que vous ne l'avez pas extraite, vous n'avez pas fait des fermes d'araignicoles, si. Comment s'est passé
si.
Aujourd'hui, vous la synthétisez complètement?
Non. En fait, cette molécule, c'est une macromolécule, donc extrêmement complexe. Elle a 200 chaînes polypeptidiques. Et donc, bien sûr, on a essayé de la synthétiser, des parties, on a tous les ADN complémentaires qui code en fait pour cette molécule, mais elle est trop complexe. D'accord. Et aujourd'hui, on a créé la première ferme aquacole, donc à Noirmoutier, donc qui produit en fait des arénicoles dans des conditions complètement tracées et contrôlées, et on extrait cette molécule.
D'accord. Cette molécule, donc du coup maintenant, elle est complètement intégrée dans le parcours hospitalier. Elle est comment ça s'est passé? Parce que vous racontez cette première réunion où on vous croit pas, à un moment où maintenant vous avez un livre où vous racontez d'ailleurs cette histoire où vous avez vraiment permis en tout cas un gap important dans le problème dans la grande problématique des greffes d'organes.
Oui, c'est en fait il n'y avait pas eu d'avancée en fait technologique dans la greffe d'organes depuis Cabrol, les premières transplantations où en fait on protégeait en fait les organes avec des solutions qu'on appelle des solutions colloïdales, de l'eau, du sel et des colloïdes. Et donc nous on amène un plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la greffe en fait on la retire de l'urgence. Aujourd'hui on est capable de maintenir un rein pendant 7 jours au lieu de 12 heures. Oui. On est capable de garder en fait un poumon pendant 48 heures au lieu de 6 heures. Et donc tout ça c'est pas de la magie. En fait tout ça c'est lié en fait à la physiologie de l'arénicole. La question que je me suis posée, qui était un peu naïf au démarrage, comment l'arénicole est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse, ce que je me suis aperçu, c'est que l'arénicole ne respirait pas à marée basse. Et en fait, il vivait avec son stock d'oxygène qu'il avait lié sur ses molécules d'hémoglobine. C'est pour ça que je vous ai dit en préambule, l'arénicole à marée basse, c'est comme un organe déconnecté du donneur. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je lui mets juste les molécules d'hémoglobine pour lui faire croire qu'il est toujours connecté, et en fait, donc assurer le métabolisme du greffon. Et donc, vous voyez, c'est vraiment, encore une fois, juste, en fait, une ouverture d'esprit et puis de la transversalité, aller voir des médecins qui m'ont parlé. Alors, ils me parlaient d'un truc qu'ils n'avaient pas résolu depuis que la médecine existe, qui s'appelle l'ischémie reperfusion.
Et donc, alors,
je vais vous expliquer très simplement. Ischémie, manque d'oxygène, reperfusion, trop d'oxygène. Et en fait, ischémie, reperfusion pour l'arénicole, c'est juste simplement marée haute, marée basse. Et en fait, l'arénicole avait répondu à cette problématique médicale depuis 450 millions d'années.
On reviendra parce qu'il y a l'arénicole, mais vous parliez par exemple des vers marins, de ces études d'organismes et qui sont aujourd'hui qui intéressent énormément la biologie contemporaine, qui vivent dans des conditions qui sont des conditions de pression, d'absence d'oxygène, d'absence de lumière, et qui aujourd'hui servent même de modèle pour les xénobiologistes pour imaginer comment pourrait se développer la vie ailleurs que dans les conditions sur lesquelles on la connaît sur Terre. Il y a d'autres exemples que vous avez justement des leçons que nous ont apporté ce type d'organisme-là.
Plein en fait. Alors cela, l'arénicole, en fait, je pense que c'est le projet le plus avancé en fait, puisque les molécules sont aujourd'hui en clinique. Mais il y a plein de choses en fait dans le domaine du biomimétisme, dans le domaine marin. Et c'est souvent en fait quand vous regardez le biomimétisme, c'est en tout cas lié à la santé, c'est souvent dans le domaine marin. Mais malheureusement, c'est un milieu difficile d'accès. Donc, on travaille souvent sur la plage, parce qu'on peut y aller. Sinon, il faut prendre une bouteille ou un sous-marin pour aller sous l'eau. Mais oui, bien sûr, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais alors, un truc basique, mais je suis sûr que vous utilisez tous, le post-it qu'on utilise tous, c'était des chercheurs qui s'intéressaient en fait à la patelle ou le chapeau chinois sur les rochers. Et puis, en fait, ils voulaient faire une colle. Et puis ils sont trompés dans la formulation et ça a donné la colle qui colle et qui se décolle. Et ça a donné le post-it. Aujourd'hui, il y a aussi en fait pas mal de gens qui travaillent. Bah, vous parliez des fils d'araignées, mais beaucoup de gens en fait travaillent sur le byssus de moule. Ouais. Donc c'est aussi un composé en fait qui est intéressant pour les fils de suture. Ouais. Donc il y a plein de choses qui commencent à émerger. Et je dirais principalement dans le domaine marin sur les projets les plus aboutis.
Christine, vous vouliez, on a parlé des soies, vous avez évoqué tout à l'heure un autre élément important de l'araignée qui fait qu'on aime ces arthropodes d'amour, c'est le venin.
Oui. Oui, parce qu'on mélange souvent le terme de venimeux et dangereux pour l'humain.
Voilà, c'est ça.
Hein, donc non, mais... venimeux égale je possède du venin, et elles en ont effectivement besoin, surtout pour se nourrir, éventuellement pour se défendre, mais nous n'avons jamais été les proies des araignées, et effectivement, le venin n'est pas en quantité suffisante en général. Si les araignées se défendent, elles n'attaquent jamais l'humain, elles ne savent pas ce que nous sommes, mais en tout cas, il n'y a pas une quantité suffisante pour arriver à tuer un humain, contrairement à ce qui est dit dans beaucoup de journaux ou Internet. Aucune araignée n'est mortelle à proprement parler. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. Voilà. Mais effectivement, le venin quand même est quelque chose de très intéressant aussi à étudier, puisque on a trouvé un certain nombre de toxines, de molécules qui pourraient vraiment être très intéressantes. Alors, je ne suis pas chimiste moi-même, hein, mais on évoquait tout à l'heure, du coup, une collègue qui a travaillé à l'université de Paris 6 pendant des années, qui au départ faisait des observations en physiologie sur la croissance d'un certain nombre d'espèces de mygales, et qui ensuite, effectivement, a travaillé aussi avec des chimistes en faisant des extractions de venin pour découvrir les différents composants et qui pourraient être utilisés pour des insecticides naturels, pour soigner certaines maladies comme l'épilepsie, etc. Alors sur les... grosso modo, c'est quelque chose qui est mis en place depuis quand même pas mal d'années, mais grosso modo sur les plus de 52 400 espèces d'araignées qui ont été décrites à l'heure actuelle, et on pense qu'il y en a encore autant, si ce n'est pas 10 fois plus, hein, à décrire. Donc vous voyez qu'on est encore à la recherche fondamentale de description. Hein. Il y a seulement 200 à 300 espèces dont on a étudié le venin. Hein, et on s'est rendu compte que chaque espèce avait un venin avec des composants différents, donc qui pourraient être effectivement très intéressantes. Alors on s'est surtout basé, bien sûr, sur des espèces qui au départ avaient quelquefois, alors c'est pas des problèmes de santé humaine, hein, parce que pour les araignées on n'a pas la même chose que pour des serpents par exemple, ou les moustiques avec les maladies transmises par les moustiques, hein. Mais dans certains cas, on a étudié les grosses araignées et puis quelques-unes qu'on évoque régulièrement pour la dangerosité, même s'il faut largement la diminuer, je pense que vous l'avez compris. Ben des grosses mygales par exemple, hein, donc ben comme des araignées de ce type.
Il y en a deux, hein, je vous rassure.
Non, il y en a qu'une.
Ah.
Il y en a qu'une. Hein. Vous la verrez peut-être mieux autrement, mais donc ces araignées-là ont été étudiées bien évidemment puisqu'elles sont de grande taille et qu'on pouvait récupérer un certain nombre de quantités de venin. Hein. Maintenant, on arrive à partir de peu de quantité à quand même étudier ça de façon beaucoup plus précise. Celle qu'on a aussi étudiée, c'est celle qu'on évoque régulièrement sur la dangerosité, les veuves noires. Et puis,
pourquoi les veuves noires?
Elles ont un venin très puissant et elles peuvent capturer des proies beaucoup plus grosses qu'elles, en masse. Et elles ont en particulier certains éléments qui sont des mammotoxines, puisqu'elles peuvent attaquer aussi des micro-mammifères. Donc elles sont souvent évoquées et elles font peur pour ça. Mais on est quand même un énorme mammifère. Hein. Donc effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les quantités de venin ne sont pas suffisantes pour nous tuer. Donc effectivement, celles-ci aussi ont été étudiées.
Pour tuer un hippopotame, oui, mais pas un être humain.
Même pas un hippopotame.
Même pas un hippopotame. avant, on va pas tarder, parce que oui, le temps file, à vous donner la parole. Peut-être, est-ce que Jérôme, il y a d'autres sons que tu voudrais nous faire écouter qui pourraient compléter un peu notre conversation?
Ou si sinon... j'arrive à les lire. Alors, attendez. Si je trouve.
Moi, j'ai trouvé, pendant que tu cherches, j'ai trouvé plein d'exemples intéressants.
Oui.
Le stylet du puceron possède des propriétés très intéressantes quand elles sont appliquées au cathéter, parce que contrairement aux autres stylets et aux autres dards, il peut vraiment tourner absolument dans tous les sens, il est extrêmement souple. Voilà, vous avez vu passer cette étude, ça vous dit quelque chose? Pas du tout.
Oui.
Alors, si on va plus dans le côté de la technique, il y a des insectes qui inspirent aujourd'hui des micro-robots, deux machines qui ont été construites de 8,5 et 22 micromètres, donc c'est des très très petits robots qui ont été conçus par des chercheurs américains et en matériaux à mémoire de forme et qui peuvent se déplacer sans moteur ni batterie mais grâce à la chaleur d'un courant électrique.
Il y a quelques modèles aussi au niveau robotique sur les araignées qui commencent à être faits. Oui, aussi, et par rapport aussi au déplacement. Hein, donc on a aussi des observations et des collègues qui travaillent en anatomie comparée sur le déplacement d'un certain nombre de groupes, justement, et ça peut être aussi intéressant.
Je peux vous raconter une petite anecdote d'une recherche.
Toujours les anecdotes.
Enfin, anecdote d'une recherche qui paraît complètement un peu idiote. J'étais en Angleterre, on a décrit le champ acoustique d'une mouche en vol. Avec des micros qui tournaient autour, et on s'aperçoit que c'était pas homogène, etc. Et ça sert maintenant de référence pour de l'aérodynamisme, pour des petits drones, etc. Voilà.
Vraiment en vrac, quelques exemples aussi que je trouve intéressants. Les abeilles et certains insectes s'orientent à l'aide de la polarisation de la lumière, hein, grâce à leurs yeux à facettes. Et bien, en s'inspirant de ce comportement particulier, des chercheurs de l'Université d'Édimbourg ont développé un nouveau type de boussole qui peut remplacer les boussoles traditionnelles. Mmh. Voilà, juste en repérant la polarisation de la lumière, etc. Des adhésifs qui sont issus de l'observation des geckos en position geckos, verticale aussi, à cause de la position et des espèces de micro... je sais pas comment, d'indentations.
Velcro qui sont inspirés des graines.
Des systèmes de détection de polluants qui sont basés sur des molécules fluorescentes, des méthodes de production de verre économes en énergie inspirées des microalgues, etc., etc. Donc, en tout cas, c'est un domaine de recherche effectivement très, très vivace et d'autant plus vivace que, comme on l'expliquait, il intéresse l'industrie et que ça peut permettre certains modèles, et parce qu'il y en a vertueux entre la recherche fondamentale et le développement industriel.
C'est exact. En fait, il y a des centres de recherche qui sont créés, donc notamment le Cibios qui vise à mettre ensemble en fait des biologistes, des ingénieurs, etc.
Et le muséum.
On y participe.
Et donc en fait pour essayer justement de trouver en fait des adaptations chez différents organismes et les industriels, vous avez raison, s'intéressent de plus en plus en fait au biomimétisme.
Ouais, le muséum est copilote justement d'un projet qui s'appelle Biomig avec le Cibios, ça veut dire Centre d'études et d'expertise en biomimétisme et Euramaterials avec pour objectif de créer un réseau entre découvreurs, inventeurs, réalisateurs et trices pour la mise au point de biomatériaux innovants, durables, tout en valorisant les collections et la recherche du muséum. Quelle heure est-il? Nous approchons des 20h, de l'heure fatidique. On a le temps peut-être de prendre quelques questions dans la salle. Oui, ici devant. Il faut le micro parce que comme c'est enregistré pour que les gens qui ne sont pas en présentiel et que nous saluons puissent vous entendre. Bonsoir,
merci beaucoup pour toutes ces histoires passionnantes. Moi, je me suis simplement demandé, puisque vous parliez de l'industrie, comment trouver des limites justement pour que l'industrie ne s'approprie pas toutes ces découvertes pour en faire des gros business et finalement utiliser ces petites bêtes et autres animaux?
Alors c'est difficile, hein. Donc en fait je sais que dans le projet avec le Cibios, dont le muséum probablement est partenaire, donc je connais bien les créateurs du Cibios, ils sont en train de mettre en place des logiciels d'IA pour essayer de trouver des applications dans différents domaines industriels. Après en fait, moi ça me choque pas en fait de trouver par exemple des vitres en fait qui s'auto-nettoient parce qu'on a regardé le lotus et qu'on a vu en fait que l'eau glissait sur les feuilles de lotus. Ça me choque pas en fait, c'est je dirais que c'est plutôt en fait c'est plutôt noble en fait de pas aller d'aller regarder des modèles de la nature pour en faire des produits. Après, moi, je vous repose. C'est quoi le problème en fait?
Ah ben, il y a beaucoup de problèmes.
Quand on regarde, c'est vrai. Du point de vue des services écosystémiques, oui. On peut se dire que ou des solutions fondées sur la nature, mm-hmm. Tout ça est très intéressant. Après, effectivement, on peut simplement se dire peut-être
jusqu'où
après,
peut-on
y a
aller.
Voilà, c'est ça, la limite.
Peut-on
en
aller
fait,
je pense qu'il y a des problèmes d'éthique derrière, effectivement, quand on s'adresse à des organismes
mais
comme
moi,
ça.
Moi, je pense que les problèmes d'éthique, bien sûr, il faut les gérer. Mm. Si on s'inspire de la nature, on n'est pas là pour la détruire. Oui, c'est plutôt de la bio-inspiration. Et moi, je dis toujours en fait que il faut lire la biodiversité comme une bibliothèque et lire les livres en fait de la nature plutôt que de les brûler. Mais en fait, de s'inspirer de la nature pour en faire des produits. Sincèrement, ça ne me choque pas.
Il y a peut-être pour répondre et pour aller dans le sens où vous vouliez nous emmener, un garde-fou qui a tremblé, qui a été fissuré, mais qui existe encore, qui s'appelle l'interdiction de breveter le vivant. Mm-hmm. Et l'interdiction du brevetage du vivant, si je parle sous votre contrôle, hein, je dis
oui,
pas
alors,
bêtise, c'est une façon d'interdire ou d'empêcher au oui. maximum l'exploitation.
Alors oui et non, parce qu'en fait, il y a tellement de passerelles pour protéger quand même, pour breveter le vivant.
C'est pour ça que je veux dire que c'est un mur perméable.
Par exemple, en fait, vous ne pouvez pas breveter un gène, d'accord ? Mais vous pouvez breveter un CDNA, un ADN complémentaire, qui est un ADN qui code pour un gène, mais où on enlève les exons. Et donc, en fait, voilà, donc vous voyez, nous, ce qui nous intéresse, c'est CDNA. C'est pas, donc, vous voyez, il y a plein de façons de contourner tout ça. Et après, il y a des choses qui ont été utilisées. En fait, par exemple, il n'y aurait pas eu de biologie moléculaire si on n'avait pas trouvé les TAC polymérases dans les abysses. Et on a utilisé ces enzymes pour faire de la biologie moléculaire. Donc,
Mais juste un exemple sur la soie, justement, et les fils de soie d'araignée. Quand on s'est rendu compte, avec l'exemple que je citais tout à l'heure, que les élevages étaient quand même contraignants, les humains ont essayé du coup de faire produire ces fils par d'autres organismes. Et donc il y a eu des animaux, en particulier au Canada, une entreprise qui a essayé de faire des vaches ou des chèvres araignées, donc de la transgénique. Bon, jusqu'où on peut aller, surtout c'était des animaux qui ne produisaient pas eux-mêmes de fils de soie. Donc après, il y a eu des essais de transgéniques avec des vers à soie, justement, puisque ça, ce sont des animaux qui produisent des fils de soie. Ça n'a pas forcément marché. Et en plus, les questions se posaient quand même par rapport à jusqu'où peut-on aller, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et maintenant, effectivement, donc, les essais sont faits sur des bactéries qui peuvent produire plus ou moins naturellement des sortes de filaments. Donc on revient effectivement à des questionnements par rapport à rien que ces fils de soie.
On fait très attention maintenant à l'éthique et à notre recherche.
Ah oui,
je
ne
vois pas pourquoi on ne ferait pas attention dans l'exploitation, même si ce n'est qu'une idée qui est inspirée de la nature. Donc il faut se mettre ces garde-fous, on nous les met et c'est bien.
Une autre question, oui, bonsoir.
Bah, tout d'abord, bonsoir, du coup, merci d'avoir partagé toutes ces merveilleuses anecdotes. Moi, j'avais une question par rapport au processus de la recherche en général. Cette question s'adresse notamment à vous trois. Quelles sont les premières étapes ou les étapes pour vous qui sont le plus primordiales dans une recherche, surtout quand on s'inspire de la nature? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de, en observant la nature, est-ce que je ne participerai pas à une sorte de perturbation ou un changement d'attitude, notamment pour vous qui observez les animaux vivants? Vous n'êtes pas demandé, quand je les observe, est-ce qu'ils changent de comportement?
Bien sûr.
Et comment vous affrontez justement cette problématique-là, en fait?
Alors, complètement, c'est un des... D'un point de vue purement scientifique, c'est un biais potentiel. Ça s'appelle le biais d'observation et aussi d'observateur. C'est-à-dire que dès qu'on va rentrer dans un milieu qu'on va observer, c'est vraiment le cas pour les chimpanzés, mais Sabrina pourra en parler mieux que nous, on va perturber parce qu'on est là, notre présence, notre odeur, nos mouvements, nos sons vont potentiellement perturber. Donc comment on limite ça? Par l'observation sur le long terme, par l'habituation notamment pour les chimpanzés, pour les mammifères, en se cachant tout simplement, en limitant le plus possible notre présence. Et nous, ce que l'on fait par le son justement, on essaie d'enlever complètement ça en enregistrant sans être là avec des magnétophones automatiques, avec Sabrina et aussi des caméras, des appareils photo automatiques, on peut observer sans être là. Alors, on a moins d'informations parce qu'on n'est pas là, mais on ne dérange pas et donc on ne perturbe vraiment pas ce que l'on observe.
Sabrina, tu veux dire ?
Si j'ai le micro, j'en profite juste pour répondre à la première question autour notamment de l'utilisation des plantes médicinales qui peuvent être découvertes grâce aux chimpanzés qui sont nos guides vers ces molécules. Là, l'éthique et les questions de préservation en fait de ces connaissances et de ces savoirs locaux est primordiale. Et donc la première étape, c'est vraiment de rédiger des accords de collaboration et de s'assurer que les communautés locales et les peuples qui vivent à proximité des chimpanzés et qui utilisent aussi ces ressources médicinales puissent bénéficier des avantages qui pourraient être obtenus par des laboratoires dans les pays du Nord. Et donc que ces brevets n'appartiennent pas aux laboratoires des pays du Nord, mais bien aux pays dans lesquels les découvertes ont été faites. Et donc pour ça, c'est vraiment important d'inclure toujours des chercheurs des pays avec lesquels on travaille et que sur les accords de collaboration soient bien précisés justement les assistants qui travaillent sur les projets. Donc pour moi, la question éthique est vraiment capitale, comme le fait d'essayer de synthétiser et de surtout ne pas aller prélever les arbres pour les couper et avoir les molécules. Donc l'objectif, c'est d'avoir un modèle qui permette de mimer la nature, un modèle chimique, mais qui permette de faire de la synthèse ou de l'hémisynthèse, et bien sûr pas d'aller couper les arbres ou les plantes pour s'en inspirer. Sur la première étape qui consiste à ne pas perturber, oui, c'est primordial. Je dirais que la première étape de la recherche, c'est avant tout la curiosité, mais que cette curiosité, il faut la réfréner au maximum pour s'assurer que les recherches sont faites sans perturber. Et dans le cas des chimpanzés, bah, y a une étape de au moins 8 à 10 ans pour ne pas approcher les animaux et obtenir leur confiance. Donc ne jamais utiliser par exemple d'appât ou d'aliments pour pouvoir les approcher, mais être le plus neutre possible dans l'environnement. D'ailleurs, Geneviève a écrit un petit article à ce sujet sur le temps qu'il faut pour approcher les animaux, le temps qu'il faut pour être humble, comme le dit disait Jérôme, et donc faire en sorte de perturber le moins possible. Et aujourd'hui, tous ces enregistreurs passifs, notamment l'écho-acoustique et également les caméras trappes, sont vraiment les pièges à détection de présence sont vraiment des outils importants. Quand Jérôme parlait du fait qu'on a enregistré à la lisière du parc, si on était là, en fait, on encourageait les chimpanzés à aller piller parce que aujourd'hui qu'on les a habitués, ils ont confiance en nous. Et si on les suit à la lisière, dans ces cas-là, ils se sentent comme protégés par notre présence envers d'autres humains qui sont plus dangereux. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de remplacer notre présence par des enregistrements ou donc vidéo ou sonore. Voilà.
Alors c'est vrai que par rapport à cette question, moi je ne suis pas du tout à la même échelle par rapport aux organismes que j'étudie, hein, que sont les araignées. Et comme je le disais au tout début, on n'est pas dans le même monde et à la même échelle. Néanmoins, quand on veut faire des observations, il faut rester tranquille dans un endroit. On n'est pas perçu par les araignées. De toute façon, on n'est rien dans le monde des araignées, un support éventuel. Et donc quand on reste tranquille, et donc quelquefois justement je fais ça aussi dans mes stages ou dans mes animations, on reste tranquille à un endroit et là on en voit énormément. Et comme on est une partie intégrante de l'environnement, elles ne nous perçoivent pas, elles ne nous sentent pas, elles n'ont pas de reconnaissance de ce que nous sommes. Il peut y avoir des observations qui peuvent être intéressantes là aussi.
Encore quelques questions. On a quelques minutes. Oui, monsieur au fond.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des pays qui sont particulièrement avancés en matière de recherche sur le biomimétisme ? Et dans le même ordre d'idée, est-ce que les différences d'encadrement juridique, d'encadrement réglementaire d'un pays à l'autre, la France, les États-Unis, la Chine, risquent de poser problème ?
Alors, en fait, les États-Unis sont extrêmement bien avancés, en fait, sur le biomimétisme. C'était même d'ailleurs des pionniers. Et puis, il y a une norme qui est en train de se mettre en place. Alors, j'ai plus le numéro de la norme, ISO quelque chose, qui va mettre, en fait, un guideline, en fait, autour du fait de travailler sur du biomimétisme. Et ça, je sais que le CBIO, c'est extrêmement actif là-dessus.
Une dernière question, peut-être. Une fois Vous ne regretterez pas, vous êtes sûr? Bon, bah, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir discuter en tout cas pendant quelques minutes encore après. Merci beaucoup, merci beaucoup
à tous les trois.
Merci à vous d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux. Geneviève va vous redire un mot pour la suite et pour la prochaine conférence.
Oui, merci beaucoup en tout cas pour cet échange qui a été très vivifiant et qui approche des enjeux d'actualité, de société, d'écologie, de biodiversité qui nous intéressent au plus haut point. Je voulais vous donner rendez-vous le 2 décembre à 19h pour la prochaine et dernière rencontre de ce cycle « Nous et les autres animaux ». Cette rencontre portera sur le droit de l'environnement et des animaux, comment les réconcilier, avec Gilles Boeuf, Nadia Belaïdi, Émilie Dardenne, et cette séance sera modérée par Alexandra Delbo. Je voudrais remercier plusieurs personnes qui ont participé et sans qui cette séance n'aurait pas pu avoir lieu, notamment ma collègue Françoise Chevalier qui a constitué les bibliographies que vous pouvez prendre à l'entrée de la salle. Sabrina a fait une allusion au numéro de Balise, donc qui est le magazine de la BPI que vous pouvez prendre aussi, qui doit être à votre disposition à l'entrée de la salle. La séance de la dernière fois, celle du 21 octobre, sur les animaux partenaires des humains est à présent disponible sur la chaîne YouTube de la BPI. Donc ça s'appelle les animaux partenaires des humains. Et à présent, nous allons vous inviter à nous rejoindre à la librairie du Centre Pompidou où vous retrouverez nos invités pour une vente signature de leurs ouvrages, y compris les ouvrages de Nicolas et de Sabrina. Je vous remercie, je remercie la lumière, le son, mes amis de la régie. Merci à tous et à très bientôt. Et je salue Emmanuel Puy-Debas parce qu'on a beaucoup parlé de bio-inspiration ce soir. Donc Emmanuel Puy-Debas est professeure au muséum. Elle a vraiment l'art de transmettre son émerveillement à tous et ses ouvrages ont été décisifs pour la constitution de ce cycle. Donc je tenais à la saluer. J'espère vous revoir bientôt le 2 décembre et en attendant à la librairie. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.